Eh bien, merci d'être là ce matin, vous qui avez affronté la neige, le mauvais temps. Et on peut penser aussi à ceux qui sont peut-être restés à la maison, mais aussi à ceux qui ont bravé le mauvais temps pour se rendre à Lyon. Je sais que d'autres parmi nous avaient l'intention aussi d'aller à la Bourse du Travail pour ce culte en commun des églises évangéliques de la région lyonnaise dans le cadre de la semaine de l'Alliance évangélique. Alors, dimanche dernier, je vous avais parlé de Joseph. Joseph, le fiancé, puis l'époux de Marie, le père, le papa de Jésus, enfant, bébé, adolescent, celui qui l'a éduqué et qui l'a formé aussi ensuite dans son métier, dans son travail, qu'il a exercé jusqu'à à peu près l'âge de 30 ans. Je vous avais dit que la Bible disait que Joseph était un homme bon. En fait, on a peut-être dans certaines Bibles la traduction de juste, un homme juste. Mais c'est la Bible du Semeur qui traduit bon et droit. Joseph était un homme bon et droit. Et j'ai regardé un peu les autres Joseph qu'il y avait dans la Bible. Plusieurs personnages portent ce prénom de Joseph. Alors il y a Joseph d'Arimathée, vous vous souvenez, celui qui a descendu Jésus de la croix et qui l'a mis dans son tombeau. Il est dit aussi de lui qu'il était un homme bon. Et puis il y a ce Joseph qu'on trouve dans le livre des Actes, qui porte le nom de Barnabas, et il est dit aussi de lui qu'il était un homme bon. Et puis il y a ce Joseph de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse, de la fin du livre de la Genèse. Alors, je n'ai pas fait de recherche, je ne sais pas s'il y a un verset précis qui dit qu'il était bon, mais en tout cas, il a usé de bonté, de bienveillance à l'égard de ses frères et de sa famille. Alors, je ne sais pas si quelqu'un porte le prénom de Joseph parmi nous ce matin, comme deuxième ou troisième prénom, si c'est le cas. J'espère que vous suivez la lignée de ces Joseph de la Bible, qui eux sont des hommes bons. Un verset du livre des Proverbes, chapitre 19, verset 22, je crois que j'avais dit 26 dimanche dernier, nous dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et le mot homme ici veut dire aussi femme, parce que c'est le mot Adam qui se trouve dans la Bible, c'est-à-dire l'être humain, celui qui est tiré de la terre. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de celle qui fut la compagne, la femme, l'épouse de Joseph et la maman de Jésus, celle qui l'a porté, qui l'a mis au monde et qui aussi, bien sûr, l'a élevé, Marie. Et je ferai juste deux toutes petites lectures préliminaires dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, alors je n'ai pas beaucoup de mérite, habituellement c'est toujours le cas d'ailleurs, mais particulièrement ce matin, parce que ce que je vais vous dire, nous l'avons travaillé dans notre groupe de maison, nous en avons discuté, nous avons un peu vu ces différentes choses, et j'ai promis à ceux qui ont participé à ce groupe une sorte de synthèse ce matin. Ce n'est pas tout à fait une synthèse, c'est plus, j'espère, au moins une exhortation. Luc, chapitre 2, versets 50 et 51. C'est lorsque Jésus est dans le temple à 12 ans. Vous vous souvenez que ses parents le cherchent. Il rentre à Nazareth et puis dans la caravane, probablement, où il y a beaucoup de monde, il perd de Jésus. Et au bout de, je ne sais plus, deux ou trois jours, ils se rendent compte que Jésus n'est plus avec eux. Et Jésus est en train de discuter avec des docteurs de la loi dans le temple. Il était resté dans le temple à Jérusalem. Et Jésus leur dit, mais ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et au verset 50, nous lisons ceci, mais ils, c'est-à-dire Joseph et Marie, ses parents, ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère, donc Marie, conserver toutes ces choses dans son cœur. Ils ne comprirent pas. Et puis, Un autre texte assez court qu'on a dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, et ce sera la dernière mention de Marie, mère de Jésus, dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 12 à 14. Jésus avait dit à ses disciples, ils étaient 120, d'attendre la venue de l'Esprit-Saint. Et c'est à Jérusalem qu'il se trouve, dans ce qu'on appelle la chambre haute. Et nous lisons ceci au verset 12. « Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, là où Jésus était monté au ciel, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, 3-4 kilomètres. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient les apôtres, moins Judas, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères, les frères de Jésus. » Alors Dieu a donné des parents à son fils Jésus, lorsqu'il l'introduit dans le monde. Il lui a donné un père aimant, bon, pieux, une mère pieuse aussi, soucieuse d'obéir à la parole de Dieu. Sa parole, lorsque l'ange lui annonce qu'elle est ou qu'elle sera enceinte, est de dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est une mère à l'image d'une autre mère qui s'appelle Eunice, et même d'une grand-mère qui s'appelle Loïs. La grand-mère est la mère de Timothée. On a ça dans le livre de Timothée, de la lettre de Paul à Timothée, qui, Paul écrit, avait une foi sincère, nourrie de la parole de Dieu. Et il suffit de lire le cantique de Marie, qu'on appelle le Magnificat, pour se rendre compte des nombreuses citations qu'elle puise dans l'Écriture lorsqu'elle prie. C'est un couple, Joseph et Marie, qui reçoit une mission semblable à celle de millions, même de milliards, d'êtres humains sur la terre, à travers le monde, élever leur enfant. Mission impossible ? Non, bien sûr que non. Mission possible, mais mission parfois difficile. C'est une noble tâche que nous minimisons trop souvent. Il paraît que les trois premières années de la vie d'un enfant sont importantes pour le développement psychologique de l'enfant. Mais la mission de Marie n'est pas seulement d'être la maman et pour Joseph d'être le papa. Il leur a été confié le Fils de Dieu, celui que Dieu envoie dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils et il le donne à Joseph et à Marie d'abord comme un petit être fragile. Pendant ces trois premières années de la vie de Jésus, ils ont été tous les trois ballottés d'un pays à un autre. Il a connu le sort des émigrés, le sort des fugitifs, des réfugiés. C'est en pleine nuit que Marie et Joseph, avec leur enfant, quittent précipitamment le pays d'Israël pour se réfugier en Égypte. Mais la mission que Dieu leur confie n'est pas une mission ordinaire. Jésus n'est pas n'importe quel enfant, c'est le Fils de Dieu. Et le vieux Siméon, dans le temple de Jérusalem, lorsqu'il s'y rend 8 jours après l'accouchement pour la circoncision, puis ensuite pour les rites de purification, dit à Marie qu'une terrible épreuve l'attend. Il lui donne une prophétie, une parole qui sans doute à ce moment-là était difficile pour Marie de comprendre, mais qui était quand même suffisamment claire pour dire que ce serait difficile. Une épée te transpercera l'âme. Ils ne seront donc pas épargnés en tant que parents. mais c'est fort de l'accompagnement divin qu'il s'engage dans cette mission difficile. Et dès le départ, la parole de Dieu transmise par un ange est leur boussole, leur mot d'ordre. Ils se déplacent sur la directive d'un ange. Joseph assume pleinement son rôle de père, celui de chef de famille, et c'est à lui que l'ange apparaît, et non à Marie, comme l'atteste par exemple cet ordre « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à nouvel ordre. » La situation exceptionnelle, directive exceptionnelle. Nous n'avons pas la visite d'un ange pour nous dire ce que nous devons faire dans notre vie, où nous devons habiter, où nous devons nous diriger. Mais lorsque le retour s'effectuera en Israël, c'est une vie tout à fait ordinaire que Joseph et Marie vont vivre avec leurs enfants. Ils vont se fondre dans le moule des familles juives de leur époque. Ils deviendront une famille ordinaire, avec tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Jésus va vivre une vie tout à fait ordinaire, jusqu'à l'âge de 30 ans environ, au point que quand il commencera son ministère public, les gens s'étonneront, mais n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? Mais comment se fait-il que d'un seul coup, voilà, il ait une telle sagesse, il fait des choses si extraordinaires? Alors, on ne sait pas grand-chose, très peu de choses, et même plutôt rien de Marie et de Joseph, ni même de Jésus, pendant cette longue période d'une trentaine d'années. C'est au moment du commencement du ministère public de Jésus que Marie et Joseph sont de nouveau mentionnés, mais si discrètement qu'ils s'effacent devant la personne de Jésus qui prend toute la place dans les évangiles. Et je crois que c'est là le message que les évangélistes veulent nous faire passer. C'est Jésus qui doit prendre toute la place dans notre vie. Il ne veut pas une place secondaire. C'est lui. Et lui seul, qui est la lumière du monde. Et tous les autres personnages, y compris Marie et Joseph, sont une pâle lueur à côté de la lumière qu'est Jésus. À 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure, devant des parents stupéfaits, Jésus rappelle que son père, c'est Dieu. Plus tard, adulte, il dira que sa vraie famille, c'est sa famille spirituelle, c'est ceux qui croient en lui, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et il va même prendre ses distances par rapport à sa famille de chair. À la croix, il va confier sa mère à l'apôtre Jean. Et dans la chambre haute, dans une réunion de prière juste avant la Pentecôte, on y retrouve Marie et les frères de Jésus. Sa vraie famille à Jésus, c'est ceux qui mettent leur foi en lui, qui se réunissent autour de lui, qui le considèrent comme leur sauveur et leur Seigneur. Et c'est ce que firent Marie et les frères, en tout cas certains d'entre eux, de Jésus, après la résurrection de Jésus. Joseph est absent, on n'en parle plus, on n'en entend plus parler. Est-il décédé, c'est probable, mais on ne nous dit rien à ce sujet-là. Mais Marie et les frères de Jésus vont accepter Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et il est intéressant de remarquer que Jacques, l'auteur de l'épître de Jacques, qui, d'après les historiens, la tradition chrétienne des premiers siècles, est très probablement le frère du Seigneur. Ce n'est pas l'un des 12 apôtres. Il y en avait un qui s'appelait Jacques parmi les 12, mais il a eu la tête tranchée par le roi Hérode. Il a été exécuté par le roi Hérode. Mais ce Jacques, dans son épître, il se présente comme le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Comment un frère selon la chair, ou un demi-frère, mais peu importe, peut-il être le serviteur, et même le mot veut dire esclave, de son frère? Tout simplement en le considérant comme son Seigneur, titre qui est attribué à Dieu habituellement dans la Bible. Jésus est donc le Seigneur de son frère Jacques, de Marie, de ses frères dans la chair. Marie avait elle aussi besoin de faire partie de cette famille spirituelle, cette nouvelle famille de la nouvelle alliance. Et à partir de ce moment où elle comprend qui était vraiment Jésus, peut-être au pied de la croix, certainement après la résurrection, là dans la chambre haute, en prière, en entendant elle aussi le Saint-Esprit, elle n'a aucune place privilégiée. Elle fait partie de ce nouveau peuple de Dieu dont son fils, Jésus, est le Seigneur. Et deux de ses fils, Jacques, que nous venons de nommer, et Jude, auteur de la dernière petite épître avant l'Apocalypse, ont des responsabilités au sein de l'Église de Jésus-Christ. Et comme Jacques, Jude commence aussi son épître par ces mots, Jude, serviteur ou esclave de Jésus-Christ, et il précise, frère de Jacques. Il ne mentionne pas son lien charnel avec Jésus pour bien montrer qu'il est son serviteur, comme n'importe quel autre serviteur de Dieu ou de Jésus-Christ. Alors attribuer à Marie une autre place que celle que nous avons évoquée ne me paraît pas être fidèle à l'Écriture, ne me paraît pas aller dans le sens de l'Écriture. Or, c'est l'Écriture qui est notre fondement pour éprouver toute doctrine. Comment pourrions-nous faire autrement? Comment être sûr de la vérité de Dieu, celle qui est transmise par les apôtres et conduite par le Saint-Esprit, parole inspirée de Dieu, si nous y ajoutons ce que des siècles, parfois, de tradition ont ajouté? Il faut revenir à l'Écriture, c'est elle notre guide, notre boussole, c'est elle qui nous conduit. Et dans l'Écriture, on ne passe pas par Marie pour aller à Dieu, on passe par Jésus-Christ pour aller à Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et si Marie a joué un rôle important, prépondérant, bien sûr, dans le choix de Dieu qui confie à Marie et à Joseph son fils, elle a dû, elle aussi, passer par le chemin de la foi en Jésus pour appartenir au peuple de la nouvelle alliance. Il a fallu qu'elle croie que Jésus-Christ était véritablement l'envoyé de Dieu et que c'est en lui qu'il fallait mettre sa foi. Et avec Joseph, son mari, ils ont été les dignes parents de l'enfant et de l'adolescent Jésus. Ils ont rempli la mission que Dieu leur avait confiée, celle d'élever le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Quelle est notre mission à nous, à chacun d'entre nous? Nous rendre disponibles pour faire ce que Dieu nous demande. Mais pour cela, il faut d'abord se mettre à l'écoute de sa voix, être sensible à la voix de Dieu. Mais peut-être d'abord faut-il mettre sa foi en Jésus-Christ, accepter qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, et qu'il nous veut comme ses serviteurs. Alors, dans ce cas, nous serons les véritables imitateurs de Marie et de ses fils qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Il y a, je crois, un autre rôle que Marie a joué. que je n'ai pas encore évoqué. Et je le déduis aussi d'un silence de l'Écriture, puisque nous n'avons pas grand-chose, très peu de choses. J'espère d'une déduction qui me semble normale, logique. Luc, l'évangéliste, écrit au tout début de son évangile qu'il a fait des recherches auprès de témoins oculaires pour écrire son évangile. Il fait œuvre d'historien rigoureux, précis. Il donne des dates précises, en telle année, lorsque tel empereur était à Rome, tel roi, etc. Hein, voilà, c'est très précis, c'est vraiment un travail d'historien. Auprès de qui pensez-vous qu'il a puisé ces renseignements qui ont constitué les récits de la naissance de Jésus et même de l'adolescence de Jésus dans le temple lorsque Jésus avait 12 ans? Il dit qu'il est allé voir des témoins oculaires, qu'il a fait un travail de journaliste, d'historien, de recherche. Je crois que ce n'est pas une invention que de dire que c'est auprès de Marie qu'il est allé chercher les renseignements qui constituent les premières pages de son évangile. Qui d'autre que Marie pouvait l'informer sur ces événements, sur son cantique, le Magnificat? Marie, je crois, comme d'autres, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean, comme ceux qui ont accompagné Jésus pendant les 3 années de son ministère terrestre, a eu un rôle de transmission de la parole de Dieu. Je crois que à nous aussi, c'est notre rôle de transmettre la parole de Dieu de génération en génération. Il y a un psaume que j'aime beaucoup et qui indique cette responsabilité, en particulier à ceux qui ont des cheveux blancs. C'est le psaume 71, qui a été appelé parfois le psaume des vieillards, le psaume des personnes âgées. Et au verset 17 à 19, nous lisons ceci, c'est le témoignage donc d'une personne âgée qui dit « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu. Qui est semblable à toi ? Notre rôle, c'est de témoigner de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu, des actes de Dieu aux générations montantes. Et nous sommes vraiment réjouis, en particulier ce matin, d'avoir Madame Ravassar avec toute sa vie derrière elle et aussi encore devant elle, hein, mais tout ce témoignage de fidélité, d'amour de Dieu. Et c'est, ne serait-ce que par sa présence, un témoignage fort. Mais c'est à nous aussi de montrer aux générations qui viennent combien Dieu a été fidèle dans le passé et combien il peut encore être fidèle aujourd'hui pour ceux qui se confient en lui. Je crois que c'était là aussi le témoignage de Marie, en tout cas auprès de Luc et peut-être aussi auprès d'autres personnes. Témoignage des apôtres qui ont parlé de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a dit. Les évangiles sont le témoignage des apôtres. Hein, voilà. Et je crois que c'est aussi la mission que le Seigneur confie à chacun d'entre nous. Eh bien, prenons exemple sur Joseph et sur Marie, si nous sommes des parents, si nous avons cette tâche redoutable d'élever des enfants, mais si ce n'est pas le cas, Prenons aussi exemple sur leur fidélité, sur leur disponibilité entre les mains de Dieu, disponibilité à dire au Seigneur, « Je suis ta servante ou je suis ton serviteur. » Amen.